Vous écoutez la suite du deuxième épisode de notre série « À l'écoute des acteurs d'une société inclusive ». Un podcast de l'INSEI.
Oui, bonjour, je suis la maman d'Elsa. Je viens ce matin pour faire une réunion avec Anne-Sophie, qui est l'enseignante spécialisée d'Elsa au sein de l'EAP.
Bonjour, je suis Esther Atlan, enseignante-chercheure à l'INSEI. Aujourd'hui, nous retrouvons Anne-Sophie, enseignante spécialisée qui exerce au sein d'un établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés qui s'appelle Les Amis de Laurence et qui est situé à Paris.
Bonjour, bienvenue tout le monde. On est en réunion pluridisciplinaire aujourd'hui avec l'objectif de réaliser un passeport com. C'est un document qu'on va réaliser autour d'Elsa.
Deuxième partie, communiquer avec des jeunes avec polyhandicap.
On passe à la communication. Au début, ça serait intéressant de décrire un peu le cadre favorable. Vous avez commencé à le faire en disant que si elle est seule ou avec peu de monde dans une pièce qui lui est connue, un petit fond musical peut-être.
Ça, c'est important.
Bah, le cadre, c'est ce que je disais, c'est un cadre favorable, c'est une installation. Là, c'est là que c'est important, qu'elle soit bien installée. C'est calme à la maison, elle a sa petite musique.
Anne-Sophie, la maman d'Elsa, commence par évoquer l'installation d'Elsa. On est en effet beaucoup moins disponible pour communiquer lorsque l'on a mal au ventre ou bien qu'il y a trop de bruit, de même que quand on entend mal la personne qui nous parle, ou encore que l'on est ébloui par une lumière.
Le contact oculaire, qu'on la regarde,
qu'on soit avec elle, qu'on soit présent. Parce qu'elle aime beaucoup avoir l'attention aussi. Moi, j'aime beaucoup avoir mon attention, c'est normal.
On avait noté la proximité des visages. Oui. Elle aime bien qu'on soit proche
d'elle. Qu'on se mette à sa hauteur pour venir discuter justement avec elle. On s'approche pour lui parler, elle nous regarde aussi. Donc je pense que ça, c'est important.
La communication est un des objectifs particulièrement importants pour ces jeunes. Elisabeth Catex-Nègre, ergothérapeute, explique que dans le processus de communication avec les personnes avec polyhandicap, nous sommes tous en difficulté. Les jeunes, pour se faire comprendre, et nous, pour les comprendre.
En classe, avec Anne-Sophie.
Alors, regardez. Là, c'est une branche. C'est une branche qui est tombée de l'arbre. Alors là, vous pouvez toucher la branche et puis l'écorce aussi qui est dessus. Je te prends ta main. Ah, tu vas tout seul.
Parfait. Voilà.
Super. Voilà. Ça, c'est la branche.
Ça gratte un petit peu.
Aïe, carrément.
Oui, ça gratte un peu. C'est vrai. Ah.
Pourtant, aujourd'hui, grâce au développement exponentiel de la communication alternative et améliorée, de nombreuses perspectives se multiplient. Néanmoins, pour que ce travail soit généralisable et transférable dans les différents espaces de vie de la personne, il est nécessaire, premièrement, que tous les professionnels et les parents puissent se mettre d'accord pour utiliser les mêmes outils de communication, c'est-à-dire les mêmes pictogrammes, les mêmes signes ou tableaux de communication. Deuxièmement, que ces moyens de communication soient utilisés dans les différents espaces et par les différents professionnels.
De retour en réunion pluridisciplinaire.
Au niveau de la compréhension, ce qu'Elsa peut comprendre, des situations, des phrases, en contexte, hors contexte, et puis après au niveau plus symbolique, objets, photos, pictogrammes, consignes, qu'est-ce qu'on aurait à noter ?
Ah, moi, je dirais globalement, Elsa comprend très bien ce qu'on lui dit.
Donc, une bonne compréhension du langage oral, on l'a noté aussi, oui.
Que même hors contexte, c'est-à-dire que si on peut lui dire le matin, on attend les copains, je lui fais toujours le matin, le petit picto, taxi, départ, le VAP, etc.
mais elle sourit, elle sait que c'est le moment, alors que ils sont pas encore là. Dans les pictogrammes, peut-être qu'on peut lister.
Après les photos, enfin, il y a les pictos et les photos. C'est vrai que les photos, je trouve que c'est vraiment très...
Oui, elle reconnaît très bien les portraits.
Très très bien, tout ce qui est images, ça, elle est très intéressée par les images.
Je reviens aux pictos. Moi, j'ai noté poupée, ballon, musique, histoire. Mmh. Ça, c'était le cadre avec la fente qu'on lui avait proposé avec Oran pendant longtemps, où elle pouvait faire des choix de jeu. Et ces pictos-là, clairement, elle les a acquis. Elle peut faire des choix d'activité.
Sur les striking, il y a comment ça va. Justement, elle peut aller dans comment ça va, et après, il y a les émotions. Le oui, non. Enfin, en tout cas, le nom, c'est sûr qu'elle l'a sur, sur Nice Tracking, elle l'utilise à bon escient.
C'est vrai.
Laura, qui est ergothérapeute, travaille avec Elsa autour de la communication. Pourriez-vous nous présenter la façon dont vous travaillez avec Elsa et quels sont vos objectifs ?
Je m'appelle Laura Ofelé, je suis ergothérapeute ici depuis 2 ans. L'ergothérapie, c'est prendre la personne autonome et indépendante dans ses activités de vie quotidienne. Et en l'occurrence, dans le polyhandicap, c'est permettre à cette personne, donc à ses enfants, de gagner cette petite autonomie, cette petite participation qu'ils peuvent avoir, de leur permettre ça. Donc on travaille sur énormément de champs, la communication, pour leur permettre justement d'être acteurs dans leur environnement. On travaille aussi sur le renforcement des capacités motrices, notamment des manipulations, des choses comme ça, au niveau sensoriel également. On travaille aussi beaucoup en lien avec les kinés pour tout ce qui est appareillage, donc les corsets-sièges, les verticalisateurs, fauteuils roulants, voilà.
J'installe Elsa, d'accord.
Moi, j'accompagne 9 jeunes âgés de 3 à 7 ans, dont Elsa. Je l'accompagne avec une séance individuelle une fois par semaine, le lundi matin. Et on travaille cette année principalement l'ice tracking.
Bonjour Elsa. Ça va ma grande? On va aller travailler ensemble?
Ouais.
On va aller en séance d'ergo?
Eh bien on y va.
C'est parti. Donc là j'installe tout le matériel dont on a besoin. Donc on va faire aujourd'hui de l'ice tracking avec Elsa.
L'eye tracking ou commande oculaire est un outil de CAA qu'on dit high-tech. La CAA signifie communication alternative et améliorée, ou communication alternative et augmentée. Cela consiste à proposer des moyens de remplacement pour pallier les déficits de communication et ainsi compléter ou augmenter le langage oral. Les moyens de CAA peuvent être sans aide technique, comme par exemple pictogrammes, les signes, les photos, ou bien avec aide technique, comme par exemple la commande oculaire évoquée par Laura et qu'Elsa commence à utiliser. C'est un dispositif très utile pour des jeunes qui ne peuvent physiquement pas ou alors très difficilement faire des signes ou pointer un objet. Voyons maintenant comment Laura et Elsa travaillent ensemble lors d'une séance d'ergothérapie.
La commande oculaire, c'est une petite barrette comme ça, avec un capteur oculaire justement, qui permet de capter le regard. Et donc Elsa va pouvoir tout simplement avec son regard désigner des pictogrammes sur une map de communication et du coup pouvoir discuter avec nous.
Là, je vais juste vérifier qu'il y ait bien le calibrage justement pour ses yeux. Ah, donc là, c'est ses yeux qu'on voit sur l'écran. Donc ça nous permet... Exactement, ça nous permet bien de voir mais que déjà ça capte bien ses yeux et qu'ils sont bien positionnés. Et là, c'est Elsa qui
J'ai
a la
quelque
main
chose
dessus.
À te dire. Je veux faire quelque chose.
Ok.
Non. Jouer à loup ou tout lire.
C'est toi qui choisis.
Cible.
Tu veux qu'on joue? Ok.
Tuyau d'arrosage.
On joue au tuyau d'arrosage? Ça marche. Réellement, ce que Elsa va pouvoir dire, c'est qu'elle va pouvoir justement choisir si elle veut faire,
quelque chose.
Dedans, elle peut choisir si elle veut écouter une histoire, écouter de la musique ou jouer à des jeux qui sont du coup accessibles sur la tablette et qui se commandent aussi par le regard. Elle peut aussi nous demander comment nous on va, mais aussi elle dire et exprimer ses émotions, comment elle va, si elle est contente, si elle est triste, Elle peut aussi...
J'ai quelque chose à te dire.
Nous dire si elle veut nous dire des choses, si elle se pose une question, donc quand, qui, où, donc qui, il y a toutes les photos des personnes qui l'entourent. Okay. Et elle peut aussi
J'ai
nous
quelque
dire...
quelque chose à te dire.
Si elle n'aime pas, stop, encore, arrête, oui, non. Il y a une demande justement qui a été faite auprès de la MDPH pour qu'elle ait son propre matériel à la maison. Et donc qu'elle ait la tablette avec la commande oculaire et que justement cette map de communication soit utilisée aussi au quotidien.
Des outils comme la commande oculaire ouvrent de nouvelles possibilités de communication. Toutefois, comme avec n'importe quel outil, les jeunes ont besoin de temps et d'un accompagnement régulier pour pouvoir s'en saisir. Or, ça n'est pas toujours facile, car tous les professionnels n'y sont pas forcément formés et n'ont pas toujours le temps au quotidien. De même, les parents doivent apprendre à se servir de ces outils de communication, et lorsqu'il s'agit de moyens techniques coûteux, comme les tablettes ou la commande oculaire, il faut parfois attendre de longs mois avant de pouvoir obtenir un financement.
Madame De Quiro, à propos de la tablette d'Elsa.
Là, nous concrètement, Elsa va bénéficier d'une tablette avec une commande oculaire. Oui. Pour pouvoir jouer et communiquer avec un logiciel adapté. On travaille avec les équipes de l'EAP qui nous aident à configurer la tablette, qui nous aident à appréhender le matériel, qui nous ont aidé en amont à choisir le type de logiciel, etc. Oui. Donc que Elsa ait plusieurs interlocuteurs, mais qui lui parlent avec les mêmes signes, les mêmes pictos, le même langage, va lui aider à intégrer ce langage. C'est toujours mieux quand tout le monde parle avec vous une langue pour l'apprendre que s'il n'y a qu'une personne qui la parle ou vous savez cinq personnes qui la parlent différemment.
De retour en séance d'ergothérapie avec Laura et Elsa.
T'es prête ? Le petit tuyau d'arrosage qui se déplace sur l'écran, c'est finalement le regard d'Elsa. Qui va venir exploser les petites bulles de savon sur la voiture.
Très fort.
Hein. Ouais, tu viens un petit peu plus haut. Regarde ici. Ouais. Vas-y encore. Super, un peu plus haut par là-bas. C'est ce qu'on utilise au premier abord avant de commencer avec des maps de communication, justement. On commence par faire beaucoup de jeux pour que les enfants puissent s'entraîner à déjà comprendre le fonctionnement de la commande oculaire, parce qu'il y a un petit décalage, c'est très précis, mais il y a toujours un petit décalage finalement. Et ça permet aussi de nous évaluer justement la précision qu'ils ont dans leur regard, tout ce qui est discrimination visuelle, parce que là on a quand même beaucoup d'informations. Il y a le tuyau d'arrosage qui est finalement notre regard, mais il y a aussi toutes les petites flammes qui bougent, qu'on doit comprendre aussi, qu'on doit aller les éteindre. Donc c'est beaucoup d'informations. Donc on travaille tout ce qui est discrimination visuelle, la poursuite oculaire aussi, la précision, et donc tout ça, ça nous permet justement de renforcer ses capacités avant d'entamer des grilles de communication.
De retour en réunion pluridisciplinaire.
C'est bon pour la compréhension ? Vous avez des choses à rajouter ?
Oui. Non ?
J'attends la tablette cet été.
Voilà.
Oui, ça, on pourra commencer. On fera un gros point à la rentrée de
l'utilisation
de la tablette, comment on la met en place, comment on installe la map de communication dessus et tout ça.
Expression.
Bah, qu'elle appelle.
Oui.
Qu'on disait,
elle appelle, elle interpelle. Avec sa voix aussi, avec son regard.
Elle peut même aller chercher avec son bras. Oui. Elle peut faire des gestes.
Est-ce qu'elle va utiliser un geste pour s'exprimer, pour montrer quelque chose qu'elle veut
quand elle veut sortir du corps de siège, elle va vraiment commencer à avoir cette agitation. Oui. C'est pas un geste précis, mais ça va être
Corps qui passe. C'est
tout le corps.
Tout ça, c'est quand même dépendant de son état de fatigue.
Oui.
Ah oui, mais elle a une énergie qui est fluctuante.
Voilà, c'est ça.
Pas toujours.
Ouais.
Ici, il s'agit donc de trouver ce qui va permettre de soutenir l'attention d'Elsa, en lui proposant des situations qui ne soient ni sous-stimulantes, ni surstimulantes.
Quand elle est fatiguée, tout va demander effectivement plus de temps.
Après, il faut aller la chercher.
Voilà.
Moi, c'est voilà, ça marche. Parce que le petit. Voilà. Mais il faut des fois la réveiller quand.
Madame De Quiro, comment travaillez-vous avec les professionnels autour de la communication ?
En fait, il faut avoir en tête que pour pouvoir accompagner les enfants, nos enfants dans les apprentissages, on doit aussi nous connaître les bases des apprentissages. que ce soit de pratiquer un exercice physique adapté, de kiné ou d'apprendre à communiquer autrement. Ça ne peut pas se faire sans les professionnels ou sans des projets qui donnent du sens et qui nous motivent. Et ça nous oriente, ça nous encourage à approfondir nos connaissances de nos côtés en échangeant avec d'autres parents, en participant à des formations sur la communication alternative adaptée et concrètement à utiliser le classeur de communication, à fabriquer des pictos avec les équipes parce qu'on est aidé dans la fabrication concrète du matériel qu'on utilise à la maison. On échange autour du choix et de la pertinence des pictos qu'on choisit de présenter à nos enfants.
De retour en réunion pluridisciplinaire.
Voilà. Pour les gestes, elle en fait quelques-uns de temps en temps. En tout cas, elle comprend des choses très simples. Moi, elle me fait un peu le pouce comme ça. Puis surtout, elle fait ça vraiment. Donc ça, c'est aimer. Et donc, elle le faisait d'elle-même, mais du coup, je l'ai associée.
D'accord.
Mais du coup,
vous faites ça en groupe ?
Non, franchement, je ne l'ai pas repéré comme ça, mais maintenant que vous le dites, on va le renforcer, en fait, quand elle va faire ça, on va lui
dire...
Elle
fait beaucoup de... Elle porte quand même beaucoup la main là.
Elle peut tapoter, oui.
Du coup, c'est vrai que moi, j'associe. D'accord. Ah bah là, ça veut dire que tu aimes.
On était assez raccord sur beaucoup de choses qu'on connaît d'Elsa, sur son appétence pour la musique, pour le rythme, l'exploration tactile, plein de choses qu'on connaît d'elle depuis longtemps et qui sont assez visibles. Par contre, on n'était pas au courant, par exemple, qu'elle elle a dû à son syndrome une stéréotypie des mains qui entrave quand même son exploration tactile. Et là, la maman, elle a dit que malgré ça, elle arrive à faire des petits gestes avec ses mains pour l'acquiescement, de faire oui en tapant dans les mains et des petites choses comme ça que nous, on va pouvoir renforcer. Et je pense que ça peut être une très bonne piste de faire quelque chose de cohérent dans les différents lieux de vie de l'enfant et avec les différents intervenants pour appuyer les apprentissages de l'enfant.
Donc j'aime,
oui.
C'est bon,
super,
c'est super, et allez, on y va. Dans les outils de communication, donc, on a mis le macathon et gestes qui va aider sa compréhension. Elle aime beaucoup le contacteur. Oui. Appuyer, tapoter, voilà. Je vais faire une synthèse de tout ça et vous le passez pour lecture.
Okay.
On est bon ? Bon, merci beaucoup à tout le monde.
Merci.
Moi, je vais reprendre après. L'outil qui sera ça se présente sous forme de triptyque, ce sont trois pages plastifiées reliées qui se replient dans un format A4 pour qu'ils puissent voyager facilement, et à l'intérieur donc il y a une photo de l'enfant, sa date d'anniversaire, quelques photos de personnes qui sont importantes pour lui. Et puis après, les différentes catégories, des informations sur le repas, sur l'appareillage, sur ses capacités motrices, sur la communication, la compréhension, l'expression. On a différents retours des parents, d'enfants qui en ont déjà. Il y en a qui l'utilisent même dans la famille éloignée pour avoir un support d'échange, l'enfant avec des personnes qui en soi le connaissent bien, mais peut-être pas si bien que ça.
Madame de Quiro.
C'est une réunion qui a permis de synthétiser de la façon la plus précise, la plus juste possible, des informations concernant Elsa pour qu'elle soit présentée à des tierces personnes qui ne la connaîtraient pas. Et comme on disait, qu'on soit sûr de parler de la même personne, parce qu'on n'a pas forcément le même regard quand on est parent, professionnel, etc. Donc l'important, c'est que ça soit objectif au final. Et puis effectivement, ça peut être une bonne idée de le présenter à la classe dans une situation d'inclusion scolaire pour montrer à la maîtresse, mais aussi comme support de rencontre avec les autres enfants. Ça peut être assez ludique aussi.
Le passeport de communication sera aussi utile à l'enseignante et à l'AESH qui accueille Elsa lors de temps d'inclusion en classe ordinaire. Cet outil va les aider à mieux la connaître et donc à pouvoir améliorer l'adaptation des supports et des propositions qui peuvent lui être faites. Écoutons la maman d'Elsa et Anne-Sophie nous parler de ses temps d'inclusion en école maternelle.
Depuis cette année, elle participe à un temps de scolarisation dans une école maternelle, donc en milieu dit ordinaire. C'est un temps d'inclusion scolaire, Donc elle est accompagnée tout du long de ce temps d'inclusion, donc de son arrivée à son départ de l'école, que ce soit dans la classe comme en cours de récréation, par une AESH attitrée, qui lui permet de participer dans la mesure de ses capacités aux activités de la classe et à un temps de vie d'écolière normal.
Ça lui apporte, je pense, deux choses. On est d'un côté sur le versant de la socialisation, et puis il y a évidemment le côté apprentissage. On est en lien avec l'enseignante, on partage le même code de pictogramme pour que Elsa soit entourée, voilà, et à la maison, et à l'école, et à l'EAP, du même code qu'elle apprendra au fur et à mesure.
Que peut-on dire de l'accompagnement des jeunes avec polyhandicap aujourd'hui en France et des évolutions autour de la CAA? Quels sont les points qui pourraient être encore améliorés? Laura, ergothérapeute, et Madame De Quiro, maman d'Elsa, nous livrent chacune leur point de vue.
C'est vrai que le polyhandicap, ça évolue énormément au niveau de la prise en charge. Quand on regarde, c'est finalement très récent au niveau de l'accompagnement déjà en établissement. C'est à l'échelle d'une vie humaine, donc je pense qu'il y a encore plein de choses qui vont se passer. Rien qu'avec là, les outils numériques qui sont arrivés ou la commande oculaire, on en parlait, les tablettes tactiles, ce sont des choses qui sont encore très récentes. Donc on va avoir toute une génération de jeunes polyhandicapés qui vont plus tard pouvoir justement davantage s'exprimer. Ce qui, moi, m'inquiète, c'est justement que c'est encore peu abordé. Là, j'ai donné des cours à des étudiants en ergothérapie, c'était en troisième année, et c'était leur premier cours sur le polyhandicap. Et finalement, on en parle, mais il n'y a peut-être encore pas assez de formation auprès déjà des étudiants dans les écoles qui peuvent accompagner ce public-là.
Ce serait bien que tous les enfants puissent bénéficier déjà de places dans des lieux adaptés, qui prennent en compte leurs besoins spécifiques. Donc que les portes s'ouvrent, que des ponts et des rencontres puissent se créer, c'est un progrès pour tous. Enfin, maintenant, c'est quand même admis qu'on n'a plus à convaincre sur l'utilité de l'inclusion. C'est quelque chose, le mot inclusion lui-même, il est raillé, etc. Mais c'est-à-dire qu'il existe, qu'il est compris. Donc les progrès sont récents, mais ils sont réels.
Le podcast que vous venez d'écouter est centré sur la situation des jeunes. Mais il faudrait aussi évoquer les problématiques liées à l'accueil des adultes avec polyhandicap. Les structures accompagnant ces personnes ont un besoin urgent d'obtenir des moyens supplémentaires pour pouvoir poursuivre avec les adultes le travail amorcé plus jeune autour des outils de communication et des apprentissages. Pour conclure, je dirais donc que nous avançons ensemble, parents, professionnels et chercheurs. Même si le chemin semble encore long, qu'il reste beaucoup à faire et à apprendre des personnes avec polyhandicap, je suis convaincue que les prochains défis à relever seront passionnants. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le site de l'INSEI. À l'INSEI, dans le cadre des formations, notamment le DU Polyéducap, Polyhandicap, Éducation et Apprentissage, nous proposons des contenus s'adressant en priorité aux professionnels, c'est-à-dire à la fois aux enseignants, éducateurs, ergothérapeutes, en bref, à tous les professionnels intéressés par la question des apprentissages. Dans ce cadre, ce DU aborde donc largement les questions liées à la communication et aux outils de CA.
C'était « À l'écoute des acteurs d'une société inclusive », un podcast de l'INSEI.